Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Regard sur les perspectives de l'année 2016 à la lecture des grandes tendances économiques de cette fin d'année. Géopolitique et géoéconomie ne sont jamais loin. Pour cette édition réalisée en partenariat avec Alternative Économique, nos invités Antoine de Ravignan, rédacteur en chef adjoint à l'Alternative Économique. Bonjour.
Bonjour.
Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique et auteur de plusieurs ouvrages, dont une brève histoire des crises financières aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Et Francis Perrin, président de Stratégie et Politique Énergétique, directeur de la publication et rédaction de Pétrole et Gaz Arabe. Bonjour.
Bonjour.
Deux nouvelles importantes marquent la fin 2015 sur le plan économique avec des incidences pour 2016 que nous allons avec vous évaluer. Elles viennent, ces nouvelles, des États-Unis. Décision du Congrès américain d'autoriser la levée de l'interdiction d'exportation de pétrole brut américain, une prohibition imposée dans les années 70. Pour contrer l'envolée des cours, le diktat de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et prévenir les risques de pénurie. 40 ans plus tard, Washington ouvre les vannes. Cette décision concernant le pétrole, elle est intervenue au lendemain de l'annonce de la hausse des taux par la Réserve fédérale, hausse d'un quart de point après 7 années de maintien à zéro. La bonne nouvelle de cette hausse des taux d'intérêt, c'est que l'économie américaine va mieux. Sa croissance pourrait avoisiner 2,4% en 2016. Mais cette hausse ne sera pas sans conséquences, bonnes ou mauvaises. Pour commencer, quelle lecture faire de ces deux signaux envoyés par les États-Unis en cette fin 2015 ? Francis Perrin.
Il n'y a pas vraiment de lien sur le plan pétrolier énergétique entre ces deux signaux. Cela ne veut pas dire que les deux n'ont pas un lien avec les questions énergétiques, mais il n'y a pas forcément de cohérence. On est sur des niveaux différents. Alors pour ce qui concerne la question des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, elle a eu pour conséquence sur le plan purement pétrolier, et bien sûr elle a d'autres conséquences, de faire baisser encore un petit peu plus les prix du pétrole. On sait qu'en règle générale, ce n'est pas une loi économique bien sûr, hein, il faut nuancer, mais en règle générale il y a une relation inverse entre l'évolution du cours du dollar et l'évolution des prix du pétrole, toutes choses égales par ailleurs. En tendance, c'est loin d'être toujours le cas, mais quand le dollar est fort, le prix du pétrole baisse. Alors en ce moment, le prix du pétrole a beaucoup d'autres raisons de baisser, qui sont beaucoup plus importantes que l'évolution du dollar, mais cette nouvelle hausse du dollar a eu encore un impact baissier sur les prix du pétrole. Pour ce qui concerne la fin de l'interdiction imposée aux producteurs américains d'exporter du pétrole, vous l'avez rappelé, c'était une loi qui remontait à il y a une quarantaine d'années. Et en fait, je dirais qu'en termes symboliques, cette abolition illustre l'évolution considérable du contexte pétrolier énergétique mondial et nord-américain au cours des dernières décennies, et même d'ailleurs dans les dernières années, avec notamment la progression spectaculaire de la production de pétrole des États-Unis grâce au pétrole non conventionnel, en particulier le pétrole de schiste. Les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de liquides, pétrole brut et autres liquides, devant, dans cet ordre, la Russie et l'Arabie Saoudite. Donc il était évidemment parfaitement logique de mettre un terme à l'application d'une loi qui était complètement dépassée, comme un certain nombre de lois d'ailleurs qui ont été adoptées il y a plusieurs décennies dans différents domaines. Ça a pris pas mal de temps parce qu'il y avait une bataille entre lobbies, comme toujours aux États-Unis. Le lobby pétrolier disait « laissez-nous exporter ». Par contre, certains lobbies industriels, notamment des industries qui sont d'importantes consommatrices d'énergie, chimie, métallurgie des non-ferreux, disaient « ne laissez pas les pétroliers exporter le pétrole américain, ils vont nous priver d'un avantage compétitif, c'est très bon pour l'industrie américaine de garder notre pétrole sur notre territoire et d'en bénéficier, de même que notre gaz, etc. » Donc l'administration Obama, comme souvent, a hésité entre ces différents lobbies et puis à la faveur de secret du Congrès américain, d'accord, je te donne ci, tu me donnes ça. Bon, finalement, cette loi a été adoptée. Il ne faut pas penser que pour autant, le pétrole brut des États-Unis va déferler sur le reste de la planète. C'est sans doute plus symbolique dans l'immédiat qu'important sur le plan quantitatif, mais les symboles ont de l'importance.
On continuera de développer sur ces questions pétrolières. Christian Chavagneux, donc, sur ces deux signaux que j'évoquais tout à l'heure en introduction, envoyés par les États-Unis, vous partagez ce que vient de dire Francis Perrin ?
Pour l'économiste, les deux signaux vont dans des sens complètement inverses. Hein. Francis Perrin vient de le rappeler, lorsque les États-Unis acceptent d'exporter un peu plus, ça veut dire que le prix du pétrole va encore baisser. Ça veut dire que l'impact des prix d'énergie sur l'inflation va être encore plus faible. Donc, l'inflation américaine va être encore plus faible. Or, que fait une banque centrale lorsqu'elle remonte ses taux d'intérêt? C'est qu'elle dit, elle pense que l'économie américaine va trop vite, que la demande est trop forte, qu'il faut un petit peu la calmer, et donc elle craint que l'inflation n'aille trop vite. Or, d'un côté, on a des prix du pétrole qui vont baisser, une inflation qui sera encore plus basse. De l'autre côté, une banque centrale qui lui dit, attention, on va avoir trop d'inflation, il faut que je monte mes taux d'intérêt. Donc, pour l'économiste, les deux signaux sont plutôt contradictoires.
Antoine de Ravignan.
Oui, je crois qu'il faut aussi, au-delà de la question des États-Unis, replacer cette question de la baisse des prix du pétrole dans un contexte mondial, et notamment de la question climatique. On sort de la COP21. Un des gros enjeux, c'est effectivement de trouver les moyens de tarifer les prix du pétrole et des énergies fossiles d'une façon générale. Or, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette baisse des prix du pétrole, finalement, est peu répercutée dans les fiscalités internes des États, de manière à donner ce signal prix. Je pense que c'est un des gros enjeux pour l'année 2016 qu'il faudrait garder à l'esprit.
Géopolitique. Redéveloppera aussi la conséquence, en tout cas les après de la conférence sur le climat. Francis Perrin, plusieurs choses par rapport à ce que vous évoquiez précédemment. Cette mesure, donc Washington qui ouvre les vannes et permet aux pétroliers américains d'exporter du pétrole, elle arrive tard. Alors c'est vrai qu'on entre 2016, c'est une année électorale, hein, novembre prochain verra l'élection du président américain. La question qui se pose, c'est pourquoi maintenant? Est-ce que c'est déjà pas trop tard? Et quelles peuvent être les conséquences finalement de cette décision, notamment sur la conjoncture mondiale? Alors, en termes de prix, on en est où aujourd'hui? À $36 le baril de pétrole, avec le pétrole américain qui est au même niveau globalement que le pétrole norvégien, je parle sous votre contrôle. Alors, depuis plusieurs mois, alors déjà, est-ce qu'elle va se poursuivre, cette chute du prix du baril? Combien de temps encore? Et on évoquait il y a quelques mois l'éventualité d'un baril à $20, Francis Perrin.
Effectivement, les prix du pétrole ont encore baissé en fin de semaine dernière et en ce début de semaine. On est actuellement sur des prix de un peu supérieurs à $36 par baril pour le Brent, ce pétrole brut de référence de la mer du Nord. On est un petit peu en dessous, mais pas beaucoup, pour l'un des principaux bruts américains, le West Texas Intermediate. Ce sont des niveaux extrêmement bas. Pour le Brent, on est au niveau le plus bas depuis à peu près 11 ans et demi. Donc c'est tout à fait considérable. Est-ce que la décision du Congrès des États-Unis d'annuler, de supprimer donc cette loi interdisant l'exportation de pétrole des États-Unis va encore aggraver cette tendance à la marge? Évidemment, spontanément, on se dit, les États-Unis vont pouvoir exporter du pétrole, donc il y aura encore plus de pétrole sur le marché mondial, donc ça va encore faire baisser les cours. Donc oui, il y a un effet incontestablement baissier, mais il ne faut pas exagérer cet effet. Chacun sait bien, dans les milieux pétroliers, que le fait que cette loi ait été annulée ne veut pas dire que les États-Unis vont devenir massivement exportateurs de pétrole. Ils ont un marché intérieur considérable, qui est le plus grand marché pétrolier au monde, hein, devant la Chine, et ils vont le rester pendant encore un certain nombre d'années. Donc les producteurs américains, leur priorité n'est pas d'exporter à l'autre bout du monde quand vous avez un marché domestique qui est d'une importance considérable et qui va le rester. Mais psychologiquement, sur les marchés, c'est clair que c'est un élément supplémentaire pour dire on va jouer les prix du pétrole à la baisse. En termes de volume, ce ne sera pas considérable à court-moyen terme parce qu'il faudra attendre un certain nombre d'années avant que les États-Unis puissent éventuellement devenir un exportateur net de pétrole. Ce qui est important, c'est pas seulement est-ce que vous exportez du pétrole ou pas, c'est est-ce que vous en exportez plus que vous n'en importez. Parce qu'à ce moment-là, si vous êtes exportateur net, ça contribue à changer la donne sur un marché, surtout si vous appelez les États-Unis. Les États-Unis sont un pays qui sont globalement importateurs de pétrole. Ils vont le rester pendant un certain nombre d'années. Par contre, leur dépendance par rapport aux importations diminue très rapidement. En 2005, les importations pétrolières représentaient 60% de la consommation pétrolière des États-Unis, ce qui est énorme, un taux de dépendance très élevé. Aujourd'hui, on est à 25%. Et ça va continuer à baisser. Il faut nuancer ça avec la chute des prix, car la chute des prix a un impact négatif sur la production de pétrole aux États-Unis. Cette production a commencé à baisser à partir de mai 2015. Elle ne s'effondre pas, elle ne s'effondrera pas. Il ne faut pas rêver, en tout cas pour les producteurs en PEP là-dessus. Hein. Le pétrole de schiste n'est pas mort aux États-Unis, il ne sera pas mort à la sortie de cette crise. Mais cette production a commencé à baisser depuis plusieurs mois, elle va encore continuer à baisser pendant plusieurs mois, parce qu'elle est sensible au prix, pas énormément, mais quand même. Donc voilà, les États-Unis vont pas mettre plein de pétrole sur le marché, mais symboliquement, pour les traders, pour les opérateurs sur les marchés, c'est un facteur baissier supplémentaire qui vient s'ajouter à une longue liste, mais c'est loin d'être un facteur essentiel.
Alors, Antoine Dervignon.
Les États-Unis ne vont pas mettre plein de pétrole sur le marché, c'est un fait. Mais en même temps, le marché est très fourni. Si on regarde effectivement les disponibilités et la production américaine, canadienne, avec donc c'est presque une deuxième Arabie Saoudite. Si on regarde les disponibilités du Moyen-Orient et en face l'évolution de la demande avec un certain ralentissement aujourd'hui en Chine, donc on peut s'attendre à une période de prix relativement modérée, sans doute au-dessus des $35 qu'on connaît aujourd'hui, mais certainement pas dans les mois voire les deux années qui viennent, les $100 qu'on a connu, ce qui va poser des problèmes géopolitiques pour le coup considérables pour les pays exportateurs, sachant que ce sont des pays souvent qui ont besoin d'un baril à $100 pour équilibrer leur budget. Je pense aux pays du Golfe,
la Russie l'Iran, évidemment, le Nigeria, évidemment. L'Algérie, l'Angola, la Libye, le Gabon, le Venezuela, ils sont assez nombreux, les pays exportateurs. Christian Chavagneux, je me tourne vers vous. Donc ça, c'était pour les perdants, hein, pays exportateurs. Et puis, il y avait évidemment, en ce qui concerne les pays importateurs de pétrole, qui peuvent être gagnants de cette, évidemment, d'un pétrole meilleur marché, la France, l'Europe, la Chine, des pays africains, le Sénégal, le Niger, le Maroc. Mais qu'est-ce que l'on peut dire, Christian Chavagneux, en termes de but géostratégique entre, d'un côté, les États-Unis qui autorisent leurs pétroliers à exporter, les Saoudiens qui s'opposent à une réduction des quotas de production de l'OPEP. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui pour éclairer et bien comprendre ce qui se passe, des buts géostratégiques recherchés par les uns et les autres, je pense essentiellement aux Américains et aux Saoudiens?
Les Américains, c'est très clair. Aujourd'hui, on est dans une période où la reprise de l'économie mondiale, en particulier de l'économie américaine, mais les Américains sont, quoi qu'on en dise, souvent assez soucieux de ce qui se passe dans le reste du monde, parce que c'est quand même leurs débouchés principaux. Ils ont tout intérêt à ce que, aujourd'hui, l'économie mondiale se porte mieux, puisque l'économie américaine, vous l'avez signalé, va peut-être faire 2, 4, 2-5% pour 2016, mais ça reste quand même en dessous des performances des années précédentes. Donc, les États-Unis ont tout intérêt à ce que, le reste du monde aille bien, et lorsque le prix du pétrole baisse, c'est lorsqu'on envoie un signal, en tout cas, qui pousse vers la baisse des prix du pétrole, eh bien, ça redonne du pouvoir d'achat aux ménages, donc à la consommation intérieure, donc à la croissance. Et ça fait du bien, notamment la zone euro va en profiter. Hein. Si on fait le lien avec ce qui s'est passé du côté des banques centrales, on vous l'avait dit tout à l'heure, la Banque centrale des États-Unis commence à resserrer sa politique monétaire, alors que la Banque centrale européenne, elle, continue et a annoncé que jusqu'en 2017, elle serait tout à fait accommodante et qu'elle donnerait beaucoup, beaucoup d'argent à tous ceux qui en veulent. Donc ce décalage des politiques monétaires va faire que l'euro devrait continuer à s'affaiblir, le dollar continuer à se raffermir, ce qui fait que de notre point de vue côté européen, avec un euro qui se casse la figure, un pétrole qui se casse la figure, plus nous Français, les aides aux entreprises, on espère que, et la consommation et l'investissement vont bien repartir et qu'on va faire de 2016 une zone euro assez dynamique. Côté saoudien, bien évidemment, l'enjeu, on l'a vu au moment de la COP21, si on commence à évoluer vers un prix mondial du pétrole qui doit, du carbone en général, qui doit monter au fil des années, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'économie? Ça veut dire que le prix des réserves de pétrole que vous avez dans votre terre diminue au fur et à mesure que le prix du carbone monte. Donc ça veut dire que vous auriez un pays, s'il avait accepté qu'on parte vraiment sur un prix du carbone extrêmement dynamique sur les années qui viennent, qui aurait accepté que sa richesse, que son portefeuille, soit resserré au fur et à mesure des années qui passent. Donc les Saoudiens, on comprend très bien de leur propre point de vue ce que ça veut dire, malheureusement de leur propre point de vue égoïste, parce que bien évidemment on aura eu besoin d'un prix du carbone et d'une dynamique enclenchée, et M. Perrin pourra nous en dire plus.
Francis Perrin.
Oui, incontestablement, la lutte contre le changement climatique est plus enfin, elle n'est jamais facile, mais elle serait moins difficile si nous avions des mécanismes qui permettaient de fixer un prix du carbone qui soit suffisamment élevé et en plus en progression dans le temps, et si on avait des prix des combustibles fossiles, pétrole, charbon, gaz naturel, qui soient nettement plus élevés. Or, ce n'est pas le cas. Nous avons des énergies fossiles qui sont très abondantes et dont le prix s'est effondré. Par conséquent, elles ont une compétitivité économique tout à fait redoutable. Et cela implique qu'il faut une très forte volonté politique, ou qu'il faudra, et là c'est évidemment un point d'interrogation, la COP 21, c'est bien, tout le monde s'est congratulé de cet accord par consensus avec 195 pays, ce qui effectivement n'était pas particulièrement simple. Mais on sait très bien que pour obtenir dans le cadre d'une grande conférence de ce type un accord à 195 pays, il ne faut pas être trop exigeant, parce que sinon il n'y a pas d'accord.
D'où le fait qu'il n'y ait pas de contraintes dans les décisions.
Il y a une mention de l'importance du prix du carbone, mais il n'y a rien de précis. Il n'y a pas dans ce texte de fixation de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On fixe un objectif en disant il faut faire moins qu'une augmentation de 2 degrés, si possible aller vers une augmentation maximale de plus 1,5 degré Celsius des températures moyennes au niveau mondial par rapport à l'ère pré-industrielle. La logique aurait été de dire, bien ça, on le traduit en un objectif pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment de gaz carbonique, le CO2, au niveau mondial. Et ça, on cherche évidemment désespérément, et pour cause, le moindre chiffre de réduction dans ce texte qui n'existe pas, parce que s'il y avait eu un chiffre, il n'y aurait pas eu d'accord. Donc c'est une dynamique évidemment tout à fait intéressante, il ne faut pas sous-estimer cet aspect des choses. Mais l'aspect contraignant, même si on se félicite en disant que c'est un accord contraignant peut-être, mais avec pas grand-chose dedans, d'un peu dur, d'un peu quantifié, d'un peu quantitatif. Donc ensuite, la question c'est dans quelle mesure les États, les acteurs économiques, les collectivités locales, les citoyens, parce que c'est un défi évidemment mondial, c'est d'abord le défi des États, mais pas uniquement de loin, prendront au sérieux les engagements pris lors de la COP21 pour se doter de plans nationaux sérieux, crédibles, avec des mesures contraignantes ou incitatives, selon le cas, avec toute la panoplie économique dont disposent les États en termes d'instruments, de contraintes ou de facilitations, pour aller dans le sens d'objectifs ambitieux. Mais ça, ce sera vraiment l'après COP21. Tout le monde peut rentrer chez soi ce qu'il a fait après la COP21 en disant on a gagné, et effectivement tout le monde a gagné puisqu'il n'y a pas grand chose d'extraordinairement méchant pour qui que ce soit dans cet accord.
Alors le pétrole bas, c'est pas bon pour le climat, vous l'avez dit tous, Francis Perrin, Antoine de Ravignan. Pour terminer sur le pétrole, cette première partie d'émission, après ça on abordera d'autres thématiques. Quand on parlait des perdants d'un pétrole bas, avec évidemment, ce sont les premiers concernés, sont les producteurs de pétrole. L'année 2016, il va falloir sortir un petit peu les grandes lunettes pour voir comment des pays comme l'Algérie, d'autres, le Venezuela, qui commencent à avoir des soucis, bon, la Libye, avec les problèmes que l'on connaît, le Gabon. Bref, 2016 pourrait, je ne sais pas qui veut répondre à cette question, en tout cas être une année... non pas charnière, mais le pétrole qui ne remonte pas pour ces pays-là, ce n'est pas bon. Et la bonne santé de ces pays est véritablement mise en jeu, Christian Chavagneux.
Oui, c'est un classique de l'économie que lorsque vous dépendez beaucoup des recettes pétrolières, non seulement pour vos exportations, ce qui vous permet d'acquérir les devises qui vous permettent d'importer, mais aussi généralement pour vos recettes budgétaires, eh bien, lorsque le prix du pétrole baisse, voire s'effondre, vous perdez sur tous les tableaux. Donc c'est... une perspective éventuelle de déficit lié à cette activité internationale. Et dans le cadre de pays émergents qui vont moins bien, a priori, pour l'année 2016, ça rajoute encore des problèmes.
Alors justement, les pays émergents, je propose qu'on redémarre la deuxième partie de l'émission sur les conséquences pour eux de la hausse des prix de l'argent aux États-Unis. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Christian Chavagneux, Antoine de Ravignan et Francis Perrin dans quelques instants. À tout de suite.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Une villageoise.
Marie-France Chatin.
Regard sur les perspectives de l'année 2016 à la lecture des grandes tendances économiques de cette fin d'année. Géopolitique et géoéconomie ne sont jamais loin. Pour cette édition réalisée en partenariat avec Alternative Économique, nous retrouvons nos invités Antoine de Ravignan, rédacteur en chef adjoint à Alternative Économique, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique et auteur de plusieurs ouvrages, dont une brève histoire des crises financières aux éditions La Découverte, et Francis Perrin, président de Stratégie et Politique Énergétique, directeur de la publication et de la rédaction de Pétrole et Gaz Arabe. Christian Chavagneux, nous évoquions, beaucoup parlé des questions de pétrole et du prix bas du pétrole et de ses conséquences dans la première partie de l'émission. En introduction, on a reparlé de la hausse du loyer de l'argent intervenue il y a quelques jours. Qu'est-ce que l'on peut dire des conséquences de cette décision? On parlera de la zone euro, on y reviendra. Mais d'abord, pour commencer, sur les pays émergents.
Ce qui est important pour les acteurs des marchés financiers, c'est de se projeter dans l'avenir. Parce que finalement, quand même, cette hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, c'était un quart de point. Donc, c'était vraiment rien du tout.
Après un taux zéro pendant plus de 7 ans.
Exactement. L'important, c'est que ça marque le retournement de la politique monétaire américaine et surtout en termes d'anticipation. Alors, Madame Yellen, la présidente de la Fed, nous a laissé entendre cette semaine que la prochaine hausse devrait avoir lieu autour du mois de mars. Donc, on est sur un rythme assez rapide, puisque un quart de point tous les trois mois, ça fait vite 1% de taux d'intérêt en un an. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour les investisseurs, la perspective, c'est celle de si je place mon argent aux États-Unis, il va me rapporter de plus en plus. Et bien évidemment, s'il me rapporte de plus en plus aux États-Unis, d'où je retire mon argent? Et bien je le retire des pays émergents qui, jusqu'à présent, dans un monde de taux zéro, étaient les endroits où on pouvait placer son argent avec beaucoup de bénéfices, ce qui a fait d'ailleurs que beaucoup de ces pays ont connu un endettement en dollars extrêmement important. Pas tant d'ailleurs comme dans les années 80 ou 90 avec un endettement des États, puisque la dette publique est plutôt maîtrisée, mais plutôt un endettement des acteurs privés en dollars. Alors, si votre économie marche moins bien, si vous exportez moins, vous récupérez moins de dollars, quand vous êtes endetté en dollars de l'autre côté, ça vous fait moins de ressources pour rembourser. Donc, il y a des risques de crise d'endettement du côté des acteurs privés des pays émergents, des risques bien évidemment de secousses extrêmement fortes sur la bourse, puisque lorsque vous venez acheter des actions des pays émergents, si vous les retirez, eh bien, ça fait effondrer, ou en tout cas, ça fait faire beaucoup de yo-yo sur les bourses. La Chine, l'été dernier, bien évidemment, a été une grande victime. Mais je ne pense pas que le problème essentiel de la Chine pour 2016, ce soit les yo-yo de sa bourse. Il y a très, très peu d'actionnaires chinois du côté de la population. Le vrai problème de la Chine pour 2016 et pour les années qui viennent, c'est qu'elle est en train de réorganiser son modèle de production, de moins dépendre des exportations, de plus dépendre de sa consommation intérieure. Et de ce point de vue, on voit dans les statistiques du commerce international des choses absolument extraordinaires et dont je pense on verra la poursuite au cours de l'année 2016, c'est un début de démondialisation commerciale. C'est-à-dire, si vous calculez le commerce mondial qui devrait avoir lieu compte tenu de la croissance mondiale, évidemment, quand il y a beaucoup de croissance, il y a plus de commerce. Quand il y a moins de croissance, il y a moins de commerce international. Mais même si vous tenez compte de la différence de croissance, eh bien, vous apercevez que le commerce mondial est en dessous de ce à quoi les experts s'attendent. Et pourquoi? Eh bien, les économistes nous disent de plus en plus parce que on a une Chine et de fait d'autres pays qui s'insèrent de moins en moins dans ces fameuses chaînes de valeur ajoutée mondiale où je produis un petit peu ici, un petit peu là, où la Chine récupère tous ces petits endroits, tous ces petits produits, les assemble et les revend dans le reste du monde. C'est de moins en moins vrai. Le changement de modèle chinois va impacter le changement de modèle sur les autres pays émergents et on assiste depuis cette année. On le voit depuis 2014-2015. On assiste dans les statistiques à un début de démondialisation internationale.
Alors, quand je parlais des conséquences pour les pays émergents, c'est vrai que je ne pensais pas tout de suite à la Chine, mais je pensais à des pays comme le Brésil qui ont déjà connu une année 2015 particulièrement difficile, délicate. Et il n'est pas le seul, le Brésil, l'Afrique du Sud. Autant dire que cette mesure prise par la Réserve fédérale n'est décidément pas une bonne nouvelle, Christian Chavagneux, pour ces pays-là.
Le Brésil est dans une condition assez particulière, puisqu'ils sont déjà en taux de croissance autour de moins 3, moins 4. Donc on est sur une économie dont le modèle interne est déjà complètement secoué, je dirais, par les problèmes internes. Et en plus, vient se rajouter les variations des taux d'intérêt, les variations des prix des matières premières au-delà du pétrole, qui fait que cette économie avoir bien, bien du mal à traverser l'année 2016.
Alors, en ce qui concerne les conséquences pour la zone euro, on en a dit quelques mots dans la première partie. Peut-être qu'il serait bon de développer davantage. Vous disiez, Christian Chavagneux, que la décision de la Réserve fédérale était une décision à l'opposé de celle adoptée depuis un certain temps. Et pour encore, vous le disiez, jusqu'en 2017, la Banque centrale européenne. Qu'est-ce que l'on peut dire des conséquences pour la zone euro? 2016 me semble pour... Alors, j'allais allez parler du Royaume-Uni qui ne fait pas partie de la zone euro, mais on voit une Europe, une Union européenne en particulièrement agitée, avec des décisions importantes. Qu'est-ce que cela donne en termes de perspective pour cette Union européenne, Christian Chavagneux?
À chaque fois que la réserve fédérale américaine va dans le sens d'une augmentation des taux d'intérêt, ça nous fait du bien. Surtout quand la Banque centrale européenne va dans l'autre sens. Mmh. Cette divergence, cette absence de coordination dont on se plaint souvent, cette fois, elle nous profite. Pourquoi ? Parce qu'essentiellement, elle nous donne beaucoup de compétitivité grâce à la dépréciation de l'euro. Ça renforce la compétitivité des entreprises. Ça joue sur les anticipations d'inflation du côté des marchés financiers. C'est-à-dire que si l'euro est moins cher, c'est-à-dire que les importations vont être un peu plus chères. Donc ça veut dire qu'à terme, peut-être que les prix vont remonter. Or, c'est là le vrai problème de la zone euro. On n'est toujours pas sorti du risque de déflation, c'est-à-dire une baisse auto-entretenue des prix et de l'activité pour l'année 2016. Nous, côté français, on va un petit peu mieux. Hein. Normalement, la Banque de France nous a donné encore ses prévisions il y a 3-4 jours. Elle table sur une croissance relativement forte, enfin une reprise de la croissance relativement forte pour 2016.
On est quoi ? Légèrement au-dessus de 1% ?
On est légèrement au-dessus de 1%, mais la Banque de France, vous savez, pour pas trop se fâcher avec ses petits camarades du Trésor, ne donne des prévisions que sur 6 mois. Mmh. Et donc, sur 6 mois, ça veut dire que à la fin juin, si on en croit la Banque de France, même si sur le deuxième semestre 2016, il n'y a rien du tout, on fera au moins 1% de croissance. Ce qui fait que si vous extrapolez un petit peu, les prévisions de la Banque de France sera plutôt autour d'un et demi, 2%. Et les plus optimistes, en dehors de la Banque de France, nous disent peut-être 2%. Et donc là, on commence à arriver sur des niveaux de croissance qui nous permettent de un peu mieux maîtriser le chômage. Pas extra, de manière extraordinaire, mais vous l'avez signalé dans votre propos introductif, vous avez tout à fait raison, le reste de la zone euro risque d'être assez secoué. Mmh. Hein, aujourd'hui, on a vu des élections en Espagne dont on ne sait pas du tout quel type de politique économique il va sortir, en tout cas si un peu moins d'austérité, les Irlandais un peu moins d'austérité, les Grecs font de l'austérité à fond mais veulent en sortir le plus vite possible, les Anglais, contrairement à ce que dit David Cameron, font moins d'austérité, ils font de la relance de par la bulle immobilière, donc on a peut-être une Europe qui, bien qu'en étant secoué, arriverait peut-être à s'en sortir parce que, globalement, même s'ils ne le disent pas toujours, beaucoup de leaders des grands pays vont arrêter de lancer des programmes d'austérité, de rajouter de l'austérité à l'austérité. Donc ça peut être la bonne nouvelle de 2016 pour la zone euro.
Et 2016, je rebondis dessus, je me tourne vers vous, Antoine de Ravignan. Cette année prochaine, verra-t-elle ou non la décision de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne? Évidemment, on ne peut pas sortir notre boule de cristal, en tout cas c'est compliqué. En tout cas, voilà, c'est quand même une décision qui devrait permettre d'y voir plus clair. Et les tergiversations de ces derniers mois et des mois à venir ne sont définitivement pas bonnes pour la zone euro. Peut-être c'est Christian Chavagneux ou Antoine Ravignan.
Bon, je crois qu'un Brexit, ce serait une situation difficile pour le Royaume-Uni. Je crois qu'il y a un débat politique fort, même s'il y a des réflexes opportunistes et électoraux dans ce débat. L'intérêt de la Grande-Bretagne n'est pas au Brexit.
Christian Chavagneux, vous partagez ?
Oui, tout à fait. Mais il y a surtout, pour la première fois, un risque important. Jusqu'à présent, c'était un débat en l'air. Aujourd'hui, on voit bien que l'essentiel, une bonne partie de la classe politique britannique est prête au Brexit, même si M. Jeremy Corbyn a dit qu'il ne s'engagerait pas en faveur du non au référendum. On voit bien qu'il y a, et du côté des travaillistes et du côté des conservateurs, une vraie volonté de sortir de la zone euro. Le débat concernant à dire est-ce que c'est un problème de protection sociale qu'on accorde aux migrants qui passerait par le Royaume-Uni, vraiment un débat tout à fait... il n'est pas secondaire pour les migrants, bien sûr, mais par rapport au débat politique qui se joue aujourd'hui au Royaume-Uni, il est un peu secondaire. Et oui, compte tenu des résultats qu'on a dans les sondages aujourd'hui, on peut penser que le risque d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est tout à fait un risque possible aujourd'hui. La probabilité a fortement augmenté.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Alors, Christian Chavagneux parlait des migrants. L'année 2015 a vu la crise que l'on a connue avec ces populations qui, tragiquement parfois, cherchent à atteindre l'Europe. L'immigration, 230 millions de migrants dans le monde, c'est une donnée qui compte et qui va compter. En 2016 notamment, je ne sais pas qui veut répondre là-dessus et ça permettra ensuite peut-être de parler des inégalités dans le monde et des objectifs du développement durable lancés à New York en septembre dernier. Antoine de Ravignan.
Oui, alors 230 millions, ce sont des émigrés, en fait, ce sont pas des flux, on parle de stock. Et effectivement, ces flux migratoires sont appelés à progresser. On comptait en 1990 environ 150 millions de migrants, 230 environ aujourd'hui. Mmh. Et ces flux sont évidemment appelés à progresser énormément, et notamment au regard des perspectives démographiques, notamment en Afrique. L'essentiel de la croissance démographique mondiale, ce sera le continent africain. Les dernières projections des Nations Unies, c'est à l'horizon 2100, 4 milliards d'habitants, contre près d'un milliard aujourd'hui. Donc je crois que cette donnée est vraiment fondamentale, et effectivement ça va être la démographie africaine va être un déterminant fondamental des flux migratoires à l'avenir.
Christian Chavagneux, vous souhaitez ?
Oui, l'Afrique aujourd'hui est en train d'entrer dans une période extrêmement forte, puisque on va avoir d'ici 2040-2050 l'essentiel des jeunes actifs disponibles dans le monde, la force de travail mondiale va se situer en Afrique. Donc la question, c'est est-ce qu'on arrive à donner du travail à ces jeunes Africains qui vont être nombreux et nous disent les Nations Unies de mieux en mieux formés, parce qu'il suffit pas d'avoir simplement des jeunes, il faut aussi avoir des jeunes formés. Or le niveau de formation s'accroît en Afrique, la fenêtre démographique est en train de s'ouvrir et ils vont avoir de plus en plus de jeunes et de moins en moins de vieux et de jeunes formés. La question, c'est est-ce qu'on leur donne du travail ou pas ? Si on arrive à leur trouver du travail, on est vraiment dans ce que le chercheur Jean-Joseph Boileau appelle la Chine d'Afrique, vraiment ce mélange de pays émergents d'Asie très dynamiques sur l'industriel et sur les services pour l'Inde, qui arrive à se connecter avec l'économie africaine et qui ferait de l'Afrique demain, enfin, la vraie zone émergente du monde.
Francis Perrin.
Je voulais juste ajouter un mot parce que c'est vrai qu'en France et dans d'autres pays de l'Union européenne d'ailleurs, on parle évidemment énormément, et c'est justifié, c'est clair, de ces flux de population et on parle beaucoup de migrants. Mmh. N'oublions pas qu'il y a des migrants et des réfugiés. Alors je sais bien que dans la pratique, la distinction n'est pas forcément facile, mais elle est rarement facile.
Migrants davantage sur l'aspect économique que réfugiés sur un aspect politique.
Sur le plan conceptuel et sur le plan juridique, en termes de droit international, il y a une différence significative. C'est que si l'on parle de flux de réfugiés, et il y en a aussi, et ils sont nombreux dans la période récente et actuelle, il y a de la part des pays européens, pour en parler, une obligation de protection. Mmh. Nos responsables politiques ne mettent pas toujours beaucoup de clarté sur ces sujets-là, et ce n'est pas tout à fait récent, bien sûr, ce reproche que je leur fais, mais avec la situation récente et actuelle, cette tendance à la confusion généralisée croît et embellit. Je crois qu'il est important toujours de rappeler que dans ces flux, il y a des migrants et des réfugiés, et que le traitement, entre guillemets, de ces différentes catégories de population ne peut pas être le même d'un point de vue juridique au regard du droit international.
Christian Chavagneux.
Juste pour préciser qu'il faut rappeler toujours cette statistique qui est un peu étonnante, qui est que l'essentiel des flux migratoires internationaux sont sud-sud, avant d'être sud-nord, et que on voit bien que aucun mur n'a jamais arrêté un migrant. Les murs du Mexique, entre le Mexique et les États-Unis, n'ont pas arrêté les mouvements de population. Aucun mur européen n'arrêterait aujourd'hui un flux de population si demain il devait y avoir encore plus de migrants qui essaient de rejoindre l'Europe. Mais rappelons-nous quand même en Syrie et même en Libye, l'essentiel des migrants sont des migrants sud-sud qui restent dans la région avant de venir chez nous.
Le plan juridique, c'est une question très intéressante, mais qui va devenir de plus en plus compliquée, cette distinction entre réfugiés et migrants économiques et demain migrants climatiques ou réfugiés climatiques. Ces catégories juridiques vont devenir extrêmement compliquées. Prenons par exemple l'exemple d'un réfugié syrien qui va se réfugier en Turquie. Il est réfugié pour fait de guerre. Maintenant, s'il cherche à gagner l'Europe pour aspirer à une vie meilleure, est-il toujours un réfugié ou est-il un migrant économique ? C'est ces distinctions entre réfugiés de guerre ou migrants économiques va être une distinction de plus en plus compliquée à établir et pose des problèmes de droit redoutables, et a fortiori demain avec la question du changement climatique qui aussi va générer des migrations internationales importantes.
Francis
Perrin. L'expression réfugié climatique au jour d'aujourd'hui n'a pas de sens juridiquement, puisque pour être réfugié, il faut avoir été persécuté ou craindre avec raison d'être persécuté par un acteur, en général un État ou un groupe armé, et on n'est pas encore persécuté par le climat. Donc ces notions, évidemment, le droit international n'est pas figé, il évolue. Mmh. Mais dans son état actuel, il y a une définition claire de ce qu'est un réfugié. Alors ensuite, appliquer une définition claire à des situations extraordinairement complexes, où un ensemble de facteurs se mélangent pour les organisations qui ont à faire ce travail, c'est redoutablement difficile. Mais en termes conceptuels et juridiques, il y a encore aujourd'hui, dans l'état actuel du droit, des différences qui sont nettes.
Alors, Rapidement, parce que malheureusement il ne reste pas beaucoup de temps, les objectifs du développement durable, je le disais tout à l'heure, lancés à New York en septembre dernier, ils sont l'un des grands défis pour les années à venir. Pour mémoire, ils prennent la relève des objectifs du millénaire pour le développement, qui ont donné des résultats, je ne sais pas comment les juger, mais satisfaisants sur certains points. Alors c'est presque une réponse de Normande que je suis en train de faire. Il n'empêche que le nombre de personnes en situation d'extrême pauvreté a baissé de moitié. Comment voyez-vous les défis de ces objectifs du développement durable, Antoine de Ravignan?
Non, juste pour revenir sur les objectifs du millénaire qui, effectivement, étaient la situation précédente, la pauvreté mondiale a diminué de moitié, mais où est-ce que cette pauvreté a reculé? C'est essentiellement dans les pays émergents et principalement en Chine. La pauvreté reste endémique dans les PMA et en Afrique subsaharienne en particulier. Alors ces objectifs du développement durable qui prennent la relève des objectifs du millénaire, c'est une très bonne nouvelle, enfin, parce qu'ils sont beaucoup plus complets, beaucoup plus complexes aussi. On remplace une vingtaine de cibles et 8 objectifs par 19 objectifs et 167 cibles. Enfin, ça devient un peu une usine à gaz, mais en même temps, c'est la prise de conscience ou la reconnaissance que le développement est une chose complexe et ne peut pas se résumer à quelques mots d'ordre simplistes, qui étaient les mots d'ordre des objectifs du développement, où on disait, en gros, on va faire du développement à partir du moment où votre revenu de base dépasserait les 1,25 $, ou parce que vous irez à l'école. Effectivement, aujourd'hui, le nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés a été divisé par 2. Mais quand vous êtes toujours à 60 dans une classe avec des enseignants qui sont mal payés ou pas motivés pour enseigner, le résultat est assez mauvais. Donc, on est sorti, je crois, avec les objectifs de développement durable vers une approche peut-être plus conforme, plus réaliste de ce qu'est le développement, mais pour autant pas avec davantage de moyens.
Alors, très rapidement, peut-être en guise de conclusion, on a parlé d'un certain nombre de choses, dont la grande conférence sur le climat qui s'est déroulée à Paris. Est-ce qu'on a raison ou tort d'être, en tout cas, est-ce qu'on a plus de raison aujourd'hui d'être optimiste sur peut-être davantage de cohésion entre les uns et les autres dans le monde pour faire véritablement avancer les choses de façon plus concertée, de façon plus globale en termes économiques et en vue d'une amélioration. Je pense aux inégalités. C'est vrai que, comme on dit souvent, l'Empire romain s'est effondré en raison de terribles inégalités. Est-ce que la cohésion du monde est là menacée? Est-ce qu'on a raison? On aurait des raisons d'être optimistes, Christian Chavagneux et Francis Perrin. Christian Chavagneux.
Il y a un point qui peut nous rendre optimistes, c'est la lutte contre les paradis fiscaux. L'OCDE a lancé l'affaire en 2013. En 2015, on a eu deux vraiment avancées extrêmement importantes. D'un côté, remettre en cause l'utilisation de ces territoires par les particuliers. De l'autre, des mesures très précises, concrètes, mais qu'il faut encore mettre en œuvre pour remettre en cause leur utilisation par les multinationales. Là, la gouvernance mondiale, ce grand mot, avance, c'est un fait.
Francis Perrin.
Je crois qu'on a des raisons d'être raisonnablement et prudemment optimiste, mais il ne faut pas quand même prendre ses désirs pour des réalités. La route est encore longue et complexe, mais il y a un certain nombre de vrais progrès, à condition de les regarder quand même avec un regard un tout petit peu nuancé et réaliste.
Alors rendez-vous fin 2016 pour voir si nous avons avancé comme il fallait. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Antoine de Ravignan, rédacteur en chef adjoint à Alternative Économique, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique et auteur de plusieurs ouvrages, dont Une brève histoire des crises financières aux éditions La Découverte, et Francis Perrin, président de Stratégie et Politique Énergétique, directeur de la publication et de la rédaction de Pétrole et Gaz Arabe. Je signale donc pour cette édition de Géopolitique qui était faite en partenariat avec Alternative Économique Internationale, deux hors-série, les chiffres 2016 et puis un numéro hors-série également sur le climat et les solutions pour sauver la planète. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique Le Débat, émission signée Marie-France Chatin et Victor Hull. Samedi prochain, vous retrouverez Sophie Malibaud pour une édition consacrée à la Libye.
RFI Lance, RFI Challenge App Afrique.